bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous accueille pour cette seconde séance du Conseil municipal à Conseil d'installation qui s'est déroulée vendredi dernier. Je vais donc procéder à l'appel. Monsieur Jiquel, présent. Monsieur Drouvillé.
Présent.
Madame Léopos-Montier.
Présente.
Monsieur Gaillac.
Présent.
Madame Herbert.
Présent.
Monsieur Turano.
Présent.
Madame Minard.
Présent.
Monsieur Ségala.
Présent.
Madame Girard.
Présent.
Monsieur Bocara.
Présent.
Madame Longuève.
Présent.
Monsieur Benoît.
Présent.
Madame Menou.
Présent.
Monsieur Le Guil.
Présent.
Monsieur Scagliozzo est en retard, va nous rejoindre. Et en attendant, me donne son pouvoir. Madame Guiffard.
Présente.
Monsieur Galotte.
Présent.
Madame Gency.
Présent.
Monsieur Gabizon.
Présent.
Monsieur Travelsi.
Présent.
Madame Laxamy. Madame Porte.
Présent.
Monsieur Rosier.
Présent.
Madame Agel.
Présent.
Madame Gau.
Présent.
Madame Denis sera en retard, pardon. A donné son pouvoir en attendant à Delphine Herbert. Madame Samandel.
Présent.
Monsieur Benaroche.
Présent.
Monsieur Baron.
Présent.
Monsieur Lessani.
Présent.
Madame Marceau.
Présent.
Madame Leclerc.
Présent.
Monsieur Renaud.
Présent.
Madame Saroyan.
Présent.
Monsieur Sherman.
Présent.
Bien, donc je vais à présent désigner un secrétaire de séance et je propose la candidature de Benoît Gaillac.
Qui accepte ?
Je vous en remercie. La première délibération porte sur les délégations, puisque nous sommes dans le cadre d'un second conseil d'installation. Les délégations données au maire par le conseil municipal en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc vous avez vu, vous avez pris connaissance certainement des dispositions qui sont mentionnées dans cette note et délibération. Il n'y a pas de modification par rapport au mandat précédent, si ce n'est l'un des avant-derniers points. Si ce n'est d'ailleurs plutôt le dernier point avant qu'il ne soit, bonsoir, monsieur Lanzé, avant qu'il ne soit indiqué de manière itérative les différents points de cette note de présentation, il y a effectivement une autorisation qui est donnée au maire, donc cette faculté dans le cadre de la loi 3DS, autoriser le maire à signer des mandats spéciaux ou à prendre des mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents dans les conditions prévues à l'article 2123-18 du Code général des collectivités territoriales, naturellement dans la limite des crédits inscrits au budget. Il s'agit des déplacements qu'un conseiller ou une conseillère municipale pourrait déclencher dans le cadre d'une mission pour le conseil municipal, et particulièrement sur les territoires nationaux, c'est encadré par la réglementation, à la fois pour le tarif de l'hébergement et pour le tarif du repas. C'est donc sur la base de ce cadre global dévolu ou rattaché aux agents de l'État que cette faculté est donnée au maire à travers ce mandat spécial. Ce mandat spécial n'intègre pas, puisque les coûts ou les dépenses sont plus significative à cet égard, les déplacements dans le cadre des jumelages que nous pouvons avoir au cours de ce mandat au sein des villes avec lesquelles nous sommes parrainés. Voilà l'exemple que je voulais vous apporter parmi la seule modification de cette liste présente dans cette délibération. Cela étant parfaitement encadré. Est-ce que cela appelle des remarques de votre part, Monsieur Lessani?
Alors, par rapport aux délibérations qui sont proposées, bon, elles portent sur les délégations accordées aux maires dans l'application de l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. On veut être clair, le recours à cette délégation est prévu par la loi et on comprend l'objectif. Il s'agit de permettre une gestion efficace, réactive et au service de la continuité du service public. Mais cette efficacité ne doit jamais se faire au détriment d'un principe fondamental pour nous, le contrôle démocratique. Car ces délégations sont des décisions majeures qui pourront être prises sans passage devant le conseil municipal. Marché public, urbanisme, gestion du patrimoine, action de justice et surtout le recours à l'emprunt, la gestion de la dette ou encore les demandes de subventions. Et sur ces sujets, en fait, on trouve que les seuils sont particulièrement élevés, jusqu'à 500 000 euros pour les subventions et jusqu'à 7 millions d'euros pour les emprunts. Pour nous, ces montants ne sont pas anodins. Ils engagent durablement les finances de la commune et par conséquent l'avenir des habitants. La question est simple. Où se situe l'équilibre entre l'efficacité de l'action municipale, qu'on comprend, et le rôle du conseil municipal, puisque les délégations vous permettent de passer sans le conseil municipal. Parce qu'en fait, le conseil municipal ne peut pas être réduit à enregistrer à posteriori des décisions déjà prises. On ne conteste pas le principe des délégations, mais nous nous refusons à ce qu'elles conduisent à une concentration excessive de décisions. Aujourd'hui, les modalités d'information prévues ne permettent pas pour nous un réel contrôle. La communication a posteriori souvent limitée à une simple liste d'actes ne suffit pas à garantir un suivi sérieux et éclairé. On demande des garanties concrètes, un reporting régulier et détaillé et exploitable, un accès effectif aux documents pour les élus, une information renforcée sur les décisions financières, notamment en matière d'endettement, et une réflexion sur des seuils plus encadrés. On aura l'occasion de porter ces propositions dans le cadre du règlement intérieur au niveau du conseil municipal. Sans ces garanties, on pense que l'équilibre démocratique de notre assemblée n'est pas vraiment respecté. Et c'est pour ça qu'en état, sauf évolution sur ces points, sur les garanties que nous demandons, on est amené à voter contre ces délibérations. Merci.
Y a-t-il d'autres prises de parole sur ce point ? Bon, votre position est particulièrement restrictive. Si vous vous opposez aux délégations données aux maires qui sont par ailleurs encadrées par le Code général des collectivités territoriales, on commence mal le mandat. Sur la partie financière en particulier, peut-être avez-vous lu dans le programme municipal de la majorité aujourd'hui installée que cette ville n'a pas emprunté un seul euro durant 20 ans. Par conséquent, si j'étais amené ce soir à me projeter sur une durée analogue, je n'aurais pas besoin de vous faire de reporting, parce que je n'aurais pas emprunté. Grand bien nous fasse, pourriez-vous me dire. Le reporting de la dette, en l'occurrence, elle est constante, ou j'allais dire en tout cas tout à fait courante, dans l'exercice budgétaire annuel de la collectivité. À la fois au moment des orientations budgétaires, c'est à ce moment-là probablement que vous apprendrez si oui ou non nous aurons recours à l'emprunt à la dette. Puis ensuite, de manière concomitante, la séance consacrée au budget primitif, au cours duquel il est mentionné un emprunt d'équilibre le cas échéant, ce qui n'était pas le cas pour les 20 dernières années. En tout cas, s'il y a eu un emprunt d'équilibre, il n'a jamais été réalisé. Et puis enfin, sur le compte financier, qui est donc la clôture financière d'un exercice achevé, là aussi, il sera parfaitement lisible l'apparition d'une ligne de prêt, si tant est que nous ayons recours effectivement à l'emprunt. Les décisions du maire sont là aussi pour relater toutes les décisions que le maire aura prises en vertu de la délégation générale qui est proposée ce soir. C'est clair. Donc vous serez naturellement informé de toute décision en matière financière sur ce point. Sur la partie des subventions, Sylvain Trouvillé aura certainement des compléments à apporter. Sur la partie des subventions, on s'est trouvé bien souvent face à cet écueil de collectivités territoriales nous apportant des subventions, puisqu'il s'agit d'apport de subventions, là en l'occurrence, hein, d'apport de subventions, et non de versement de subventions par la ville de Charenton. Les apports de subventions. Et bien souvent, on s'est trouvé face ou confronté à la difficulté suivante, c'est que la collectivité territoriale qui consentait une subvention à la ville de Charenton nécessitait effectivement de délibérer par le conseil municipal de Charenton l'octroi ou l'obtention de la dite subvention. Et bien souvent, nous étions dans un calendrier inadapté entre la décision de la collectivité territoriale qui venait en soutien financier de la ville de Charenton et le calendrier municipal de la ville de Charenton pour recueillir la dite subvention. C'est la raison pour laquelle on s'est accordé cette latitude jusqu'à concurrence de 500 000 euros pour percevoir, sans qu'il soit besoin de délibérer par la ville de Charenton pour réceptionner l'aide ou la subvention financière, dans la limite des 500 000 euros. Voilà. On ne va pas laisser échapper une subvention parce que, effectivement, il n'y aurait pas concordance des calendriers entre une décision de collectivité territoriale et la séance du conseil municipal. J'ajoute à cet égard, pour peut-être vous tranquilliser sur les subventions, encore que je ne vois pas où est le problème, hein, pour vous dire les choses très naturellement, les subventions vont se tarir. On aura certainement moins l'occasion de pouvoir constater l'apport ou l'attribution de subventions provenant soit de la région, soit de la métropole, soit du territoire et du département, bien entendu, pour l'aide à l'investissement public, compte tenu des tensions financières qui, aujourd'hui, malheureusement, concernent l'ensemble du champ territorial. Voilà donc deux exemples à caractère financier, parce que je mesure bien qu'il s'agit d'une matière extrêmement sensible, et là-dessus, on se rejoint parfaitement. Mais en tout cas, sachez bien que ces délégations-là sont parfaitement cadrées par toute une série d'étapes tout au long de la vie municipale, et vous le mesurerez au fil du temps, pour relater des délégations ou des décisions qui seraient prises par les maires en vertu de délégations qui sont ici. Alors, Sylvain Drouillet.
Oui, merci, monsieur le maire. Je voudrais également rassurer nos oppositions. Puisque sur les effets juridiques de cette délégation de signature, je renvoie à la loi, et l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, puisque les délégations de signature et les délégations de pouvoir au maire sont toujours assimilables aux délibérations du conseil municipal, si bien qu'elles ne sont exécutoires que si et seulement si elles sont soumises aux mêmes règles de publicité et aux mêmes règles de contrôle de légalité du préfet, comme nos propres décisions prises au sein de ce Conseil. D'autre part, la loi fait aussi obligation au maire, et ça a été rappelé par M. le maire, à chaque réunion du Conseil municipal de présenter les décisions prises dans le cadre de ces délégations, ce qui vous permettra à loisir d'exercer votre contrôle politique sur les décisions qui sont prises par M. le maire, quel que soit le montant, et le cas échéant, si cela vous tente, de mettre fin à la délégation à M. le maire des délibérations, enfin des décisions qui lui sont données. Voilà.
Dernier point pour conclure, nous avons fait l'objet d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes il y a quelques années, durant le mandat précédent, et le contrôle de la Chambre régionale des comptes n'a jamais effectivement pointé la moindre difficulté entre les délégations qui avaient été consenties au maire et les décisions du maire qui ont suivi. Voilà, il y avait une totale cohérence. Bien, sur ces considérations et les commentaires qui s'y rattachent, je vais donc mettre aux voix, je vais commencer par les votes contre. Alors, vous votez donc contre l'ensemble des délégations faites ou proposées au maire, qui s'abstient, et deux abstentions. Le point suivant, autorisation donnée au maire pour la réalisation des opérations utiles à la gestion financière de la commune, là aussi en application de l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc c'est la faculté, et ça fait écho aux commentaires que j'ai pu faire il y a un instant sur la réalisation des emprunts à court, moyen ou long terme sous tout type d'instruments qui pourraient être proposés aux collectivités territoriales, ceux qui sont connus et ceux qui viendraient, le cas échéant, à être élaborés. Également, pour les opérations de gestion active de la dette, il est arrivé que nous puissions, dans certains cas de figure, procéder au réaménagement ou au refinancement d'emprunts existants. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle, je vous indiquerai la raison pour laquelle, à des remboursements anticipés. On a pu le pratiquer également lors des mandats précédents, à la modification, autrement dit à la renégociation des emprunts contractés par la ville, quand on pouvait considérer que le niveau de taux d'emprunt était relativement élevé. Il y a des renégociations possibles, moyennant bien entendu indemnité actuarielle, et puis le cas échéant, le recours aux lignes de trésorerie et aux placements de fonds, comme c'est d'ailleurs le cas depuis quelques années, puisque nous avions un certain niveau de recettes liées à la cession notamment du foncier Gravel-Jaurès que nous avons eu l'occasion de placer et qui nous a rapporté effectivement des produits financiers non négligeables, et par les temps qui courent, c'est tout à fait appréciable. Je rappelle enfin que le contexte de la dette à Charenton est très enviable comparativement aux villes du Val-de-Marne, puisque nous avons un stock de dette de 2 500 000 euros qui nous place parmi les villes les moins endettées de la région Île-de-France pour la strate de population qui nous incombe. Donc c'est de ce point de vue-là très satisfaisant, et j'imagine que vous partagez le même avis que nous, et que par ailleurs la commune, en dépit de la faculté qu'elle s'accorde, n'a eu recours à aucune ligne de trésorerie. Voilà donc l'objet de l'autorisation qui serait donnée au maire en matière de gestion financière de la commune. Et là encore, on aura toute occasion de vous faire part des décisions que nous pourrions prendre au cours de cette année et des années suivantes. Nous avons un mandat, paraît-il, de 7 ans qui nous attend, et donc toute bonne occasion de pouvoir échanger sur ce point. Voilà, y a-t-il des remarques ? Oui, je vous en prie.
Oui, simplement pour expliquer, pour les mêmes raisons, cette décision de notre part n'entraînant pas d'opposition à l'adoption de cette résolution, de cette délibération, nous voterons donc la même chose sur cette délibération numéro 2, compte tenu du niveau qui est proposé pour l'autorisation de souscrire un endettement.
Que n'auriez-vous dit si effectivement la ville était particulièrement endettée ? Je vous inviterai peut-être à vous tourner vers les villes qui sont concernées. Il y a des voisines qui le sont, je crois savoir, et assez nettement d'ailleurs. Voilà, donc 4 votes contre, enfin en tout cas je vais mettre aux voix, qui vote contre, j'ai compris, 4, qui s'abstient, 2 abstentions. Voilà, à présent nous allons passer au point relatif aux indemnités des élus. Je voulais préalablement mentionner ce que je n'avais pas fait lors du conseil d'installation compte tenu du délai et du temps imparti. Les délégations qui échouent donc au 11 adjoint et par ailleurs l'installation par arrêté municipal de 3 conseillers municipaux délégués. En l'occurrence, donc Sylvain Drouvillier étant désormais le premier adjoint, il est en charge de la famille, de l'éducation et de la parentalité. Pardon. Chantal Léopos-Montier, deuxième adjointe, sera déléguée au senior. Benoît Gaillac, troisième adjoint, délégué à l'aménagement et au développement de la ville. Delphine Herbert, je résume naturellement le champ de compétences de chacun, mais à l'intérieur, on peut y trouver, et les arrêter le précisons, évidemment, des éléments plus détaillés. J'ai évoqué donc Benoît Gaillac, délégué à l'aménagement et au développement de la ville, Delphine Herbert, délégué à la culture et au jumelage, Pascal Turano, le cinquième adjoint, chargé de la sécurité publique, la gestion réglementaire des espaces publics, des bâtiments communaux. Muriel Minard sera déléguée aux solidarités, elle est sixième adjointe, déléguée aux solidarités, au handicap, à l'accessibilité et à l'habitat social. Patrick Segla sera septième adjoint et septième adjoint, délégué aux finances et aux ressources humaines. Aurélia Girard, huitième adjointe, déléguée à l'écologie, dont l'environnement et autres sujets qui sont rattachés à cette délégation et cette compétence. Jean-Marc Bocara, 9e adjoint en charge de l'animation, des actions commémoratives et de la gestion patrimoniale des espaces publics. Élise Longuève, la 10e adjointe, sera déléguée à la jeunesse, à la prévention, médiation, à la protection de l'enfance et aux droits des femmes. Fabien Benoît, le 11e adjoint, est délégué au sport et au quartier. Et donc, je prendrai par arrêté municipal pour compléter cette municipalité un arrêté en faveur de Nicole Menou, qui sera conseillère municipale déléguée en charge de la petite enfance et de la parentalité. Elle viendra aussi en appui au conseil d'école aux côtés du premier adjoint Sylvain Rouillet. Laurent Leguil, je cherche chacun là. Laurent Leguil, conseiller municipal délégué en charge des affaires civiles et des élections. Et la matière est souvent réitération du scrutin. Enfin, Lorenzo Scagliozzo sera conseiller municipal délégué et conseiller municipal délégué par arrêté en charge de la démocratie participative, citoyenneté et du numérique. Au-delà de cela, la majorité municipale dans toute sa composition aura également des conseillers municipaux qui seront chargés de missions rattachées auprès des adjoints ou des conseillers municipaux délégués, mais ça c'est une organisation qui m'échoit, mais je tiens tout de même à vous en faire part. Et donc le moment venu, un certain nombre de membres de la majorité seront affectés à des missions aux côtés des 11 adjoints ou des 3 conseillers délégués que je viens de mentionner. Cela m'amène à présenter la fixation des indemnités des élus. Donc vous avez sur table le tableau de présentation qui mentionne donc en vertu de ce qu'indique la loi, le pourcentage d'indemnité rattaché au maire, c'est-à-dire 90% de l'indice 1027, ou plus exactement de l'indice majoré qui est la base de calcul de 835, donc 90% en vertu de l'indice brut terminal de la fonction publique. Je propose par ailleurs pour les 11 adjoints le taux de 25%, là aussi en fonction de l'indice brut terminal de la fonction publique, pour le premier adjoint, pardon, 25%, et pour du deuxième au onzième adjoint, 29,48% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Et enfin, pour les conseillers municipaux délégués, je propose donc 14,40% de l'indice brut terminal de la fonction publique, toujours l'indice de référence. Est-ce que cela appelle des remarques de votre part ? Non, je mets donc aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Donc 4 abstentions. Le point suivant est relatif à la majoration des indemnités des élus. Alors, en bref, Charenton étant considéré comme le siège du bureau centralisateur dans le canton dans lequel nous nous trouvons, la réglementation nous propose une majoration des indemnités qui échoit donc au maire et aux adjoints ainsi qu'aux conseillers délégués dans la limite majoration dans la limite de 15%. Donc ce qui majore effectivement les propositions initialement présentées au titre des indemnités. En l'occurrence, la majoration serait donc de 13,5% pour l'indemnité du maire, et puis successivement de 3,75% pour le premier adjoint et de 4,42% pour les du deuxième au onzième adjoint, et enfin de 2,16% pour les trois conseillers délégués. Est-ce que cela appelle des remarques ? Oui. Pardon, j'essaie de vous rendre.
Oui, voilà, c'est bien. C'est bon. Donc, c'est toujours un sujet sensible, les indemnités des élus et la majoration. On veut seulement rappeler un point, c'est que on pense que l'engagement des élus mérite d'être reconnu, et les indemnités ne sont pas un privilège, mais une compensation pour l'exercice d'un mandat que l'on veut exigeant. Le seul point par rapport à cette majoration, c'est que on pense que dans le contexte aujourd'hui, où les habitants connaissent des contraintes fortes sur leur pouvoir d'achat, on a des finances publiques sous tension, pas forcément Charenton, mais globalement, et où on a besoin d'exigences d'exemplarité sur les deniers publics. La question se pose, est-ce qu'il est opportun d'appliquer cette majoration ? Même si on comprend que c'est rendu possible par le statut de notre commune. On va s'abstenir en cohérence par rapport à ça, mais on se pose la question. La question est posée. Est-ce que c'est opportun ?
Bien. Ma réponse est la suivante. En l'occurrence, le niveau de responsabilité qui échoit aux élus de l'exécutif est tel que il est nécessaire effectivement de pouvoir dégager du temps. Alors, soit il est d'ordre personnel, soit il est d'ordre professionnel, soit il est les deux, en l'occurrence, et que cette faculté qui est proposée de majoration, c'est aussi une forme de compensation au regard de l'investissement municipal que cela requiert, et très souvent au détriment effectivement du temps professionnel que les élus, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, sont dans la nécessité de dégager. Il est évident, je pense que c'est partagé ici, que le mandat municipal n'est pas toujours une fonction particulièrement intégrée par le monde de l'entreprise, compte tenu du temps qu'il est nécessaire de dégager, d'une quotité de temps, et que bien souvent cela se fait au détriment des responsabilités que l'entreprise pourrait effectivement octroyer à un certain nombre d'élus. Je ne parle pas du cas particulier de Charenton, je parle d'une manière générale. Et ça renvoie, et je vous rejoins sur ce point, ça renvoie à la reconnaissance de la nation, de l'investissement porté par les élus au sein des collectivités territoriales qui n'est, de mon point de vue, pas du tout à la hauteur de la responsabilité qui leur échoit, en tout cas des maires et des adjoints en particulier, responsabilité juridique y compris, on le sait ô combien, responsabilité financière dans certains cas de figure, et que cette reconnaissance-là n'est, de mon point de vue, toujours pas au rendez-vous. Voilà. Donc, Charenton est un bureau centralisateur, il y a cette faculté qui est proposée, il y a un surcroît de mission qui s'y rattache, et donc c'est cette petite faculté, dirais-je, on va la qualifier ainsi, que je propose de saisir pour effectivement accompagner l'engagement de l'exécutif à mes côtés. Mais ça ne vient pas se télescoper avec la reconnaissance, me semble-t-il, des populations de ce pays à l'égard de leurs élus, dont ils ont bien conscience que la charge et la responsabilité est bien plus grande qu'elle ne l'était il y a quelques dizaines d'années, dirons-nous. Et en dépit des promesses que l'État a pu faire et du président de la République en poste sur une reconnaissance plus large dévolue aux maires en particulier, c'est toujours pas traduit dans les faits. Hein. Vous avez peut-être entendu dire que le président de la République avait arbitré pour le versement aux maires de France d'un montant sous forme de primes. On n'a jamais demandé des primes. Les maires ne reçoivent pas de primes. Voilà. Les maires demandent plutôt à ce que l'État assure le versement des dotations à la population, ce qui n'est plus le cas à Charenton. Je préférais de beaucoup que l'État ne décide pas ce genre de petite formule qui est totalement démagogique en réalité, voire hypocrite, mais bien plutôt de renforcer les dotations des villes qui se sont vues littéralement abaisser leur dotation et dans certains cas figure comme notre propre collectivité réduite à néant. Voilà. Bon, voilà le commentaire que je souhaitais vous apporter sur ce point. Donc j'ai noté qu'il y avait 4 abstentions sur ce volet. Y a-t-il d'autres abstentions? Non. Bien. Je passe à l'indemnité des frais de représentation du maire. Alors, ce sujet-là donc vient une fois, bien sûr, en référence du conseil d'installation. Alors, que sont les frais de représentation du maire? Il y a des éléments qui sont portés ici à votre connaissance. Cette délibération qui est proposée à l'ensemble des maires au titre des frais de représentation implique naturellement la présentation de justificatifs, c'est-à-dire ce qui est proposé ici dans la limite d'un montant annuel de 5 460 €, donc des frais que j'engagerai au titre de la représentation dans ma fonction, notamment dans le cadre des relations avec les partenaires qui sont effectivement sollicités dans le cadre de l'administration de la collectivité, donc suppose effectivement un engagement de dépenses de ma part avec la présentation d'un justificatif contre remboursement. Voilà, donc c'est un passage obligé et qui est d'ailleurs équivalent au dispositif du directeur général des services, dans la limite du montant annuel qui est ici présenté. Donc, sur la base des justificatifs qui sont transmis ensuite à la direction des ressources humaines Alors après, à quelle fréquence, je demanderai à Didier Cyr comment on opère, mais voilà ce qui est proposé dans le cadre naturellement du Code général des collectivités territoriales et notamment de l'article 21-23-19. Est-ce que ça appelle des observations de votre part? Oui, j'en prie. Je n'ai pas dû appuyer. Vous n'avez pas appuyé. Voilà.
Merci. Merci. Alors, monsieur le maire, chers collègues, nous souhaitons expliquer notre position générale concernant l'indemnité, concernant l'instauration d'une indemnité de frais de représentation pour le maire. Si ce dispositif est prévu par la loi, il soulève néanmoins des enjeux importants en matière de transparence et de confiance dans l'usage des deniers publics. En l'état, ces indemnités reposent sur un cadre trop peu contraignant, indépendamment des règles à Charenton-le-Pont, absence de détail des dépenses, modalités d'utilisation insuffisamment encadrées, contrôle limité, demande de remboursement exceptionnelle, sanctions inexistantes. C'est le cas général. Plusieurs organismes reconnus, comme l'Observatoire de l'éthique publique ou encore l'association Anticor, recommande d'ailleurs de faire évoluer ce système. Une alternative simple et plus exigeante existe. Remplacer ces indemnités forfaitaires par un dispositif de remboursement de frais professionnels sur justificatif permettant de garantir que chaque dépense est effectivement liée à l'exercice du mandat et donne lieu à un relevé régulier. L'adoption en outre d'un code de déontologie comprenant notamment les règles et conditions d'utilisation et de reversement de ces frais à la collectivité en cas de non-consommation, constituerait selon nous un premier pas indispensable. Au-delà de la légalité, il nous semble important de prendre en compte le regard des citoyens et le risque d'incompréhension que ce type de dispositif peut susciter. Dans un contexte où les attentes des citoyennes et des citoyens sont fortes en matière d'exemplarité vis-à-vis des acteurs publics, il nous semble essentiel d'adopter les pratiques les plus sécurisantes. En l'absence de telles garanties, nous considérons que le dispositif proposé n'apporte pas les conditions nécessaires d'encadrement. C'est pourquoi nous voterons contre cette délibération. Nous restons bien entendu disponibles pour travailler à un cadre plus exigeant, tel qu'un code de déontologie fondé sur les frais réels et justifiés. Je vous remercie.
Bon, j'ai probablement mal présenté la délibération, ou peut-être l'aurez-vous mal relu, mais ce que je propose précisément, ça répond à votre propos. C'est un remboursement sur frais réels dans la limite, ce n'est pas une avance forfaitaire de 5 460 euros, c'est un remboursement sur justificatif, mais dans la limite des 5 460 euros annuels. Autrement dit, si j'étais amené à ne présenter sur l'année un montant, par hypothèse, de 2 000 euros, ce remboursement se fera exclusivement sur pièces justificatives. Voilà, donc ce n'est pas un versement forfaitaire. Je vous en prie.
Merci, effectivement, nous avons probablement mal compris la rédaction. Ayant lu indemnité de frais de représentation, cet outil indemnité de frais de représentation est souvent une somme forfaitaire versée à l'avance. Donc nous prions de prendre en compte la modification de cette compréhension. Merci.
D'accord, alors c'est bien noté. Par conséquent, est-ce qu'on peut considérer que vous revoyez votre vote? D'accord, alors je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Je vous remercie. Le point suivant. Point suivant, c'est l'exercice du droit à la formation des élus municipaux. Si j'allais directement à la conclusion, je vous lancerai sous forme d'invitation. Saisissez l'opportunité qui vous est proposée de vous former, particulièrement en ce début de mandat. D'expérience, les premiers mois il y a une forme d'engouement pour se diriger vers le bureau ou le guichet de la formation, qui n'est autre que la direction des ressources humaines ou via la direction générale des services plus directement, ou en passant par mon cabinet, ou les deux. Et puis ensuite, cela s'étiole au fil du temps. On l'oublie, on n'a peut-être pas le temps nécessaire à dégager pour se former, mais en tout cas, il vous est proposé, il y a une enveloppe telle qu'elle est présentée ce soir de 2 000 euros par élu, durant les deux premières années de ce mandat, et ensuite on dégradera probablement la dévolution à chacun d'entre vous, mais saisissez donc cette opportunité. C'est une faculté légale également et une disposition que vous pouvez tout à fait partager avec votre employeur dans le cadre du mandat que vous détenez désormais. Et puis il y a des rappels sur les droits individuels des élus dans cette même note de présentation. Le droit individuel à la formation aussi, et donc les crédits budgétaires que je décide d'allouer dans le cadre de cette délibération. Voilà, bien entendu, il faut veiller à ce que, dès lors que vous déclencheriez une formation, veiller à ce que cet organisme soit parfaitement agréé, mais de ce point de vue-là, on a, je crois, un catalogue des formations qui pourront vous être proposées. Donc saisissez cette opportunité. J'ai en l'occurrence sous les yeux, parce que je me le suis fait rappeler, les montants qui avaient été consommés au cours des années précédentes, ils sont faibles. Alors soyons les élus du mandat, des élus qui se formeront de manière plus conséquente au cours de ce mandat. C'est tout à fait important, me semble-t-il, dans les domaines de compétences ou d'appétences qui seraient les vôtres, pour compléter peut-être votre connaissance de tel et tel sujet, et bien entendu pour les domaines que vous maîtriseriez moins. C'est une bonne mise à niveau, je crois, dans l'exercice de l'administration de la collectivité territoriale. Voilà donc la présentation que je souhaitais en faire. Est-ce que cela appelle des commentaires? Oui, sur nous.
Merci Monsieur le Maire, mes chers collègues. Nous voterons en faveur de cette délibération, mais avons trois remarques et propositions d'évolution à vous faire. La première tient en la présence d'un plafond de dépenses individuelles qui n'est pas prévu par le Code général des collectivités territoriales. Nous souhaiterions donc que vous engagiez à réexaminer chaque année ce seuil au regard des dépenses effectivement consommées par chaque élu et des souhaits et besoins exprimés au niveau local et collectif. Cela nous amène à notre deuxième proposition et fera écho à l'intervention de ma collègue Madame Marceau. L'article 21-23-12 dispose qu'un tableau récapitulant les actions de formation des élus financé par la commune et annexé au compte financier unique et donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Pourquoi ne pas rendre accessible au grand public le détail des formations effectuées par les élus et les dépenses engagées par la commune? Les citoyennes et les citoyens pourraient ainsi mieux comprendre l'action de leurs élus et comment les deniers publics sont utilisés par les représentantes et les représentants. Pour donc conclure, notre troisième proposition tient en des formations communes et collectives à l'ensemble des membres de ce conseil municipal. Celle-ci pourrait aborder les droits et devoirs des élus, comme mentionné dans la charte de l'élu local, la probité des élus, les violences sexistes et sexuelles, ou encore les valeurs de la République. Par ailleurs, notre Assemblée compte une quinzaine de nouveaux élus n'ayant jamais siégé. Ensemble, nous pourrions bénéficier d'une formation sur les finances locales et le budget communal, ceci étant à la base de l'action locale, que nous soyons dans la majorité ou dans l'opposition. Nous espérons, Monsieur le Maire, chers collègues, que vous saurez entendre nos propositions et nous associer à ces améliorations. Je vous remercie.
On va peut-être parler à deux voix. S'agissant du compte financier unique, l'annexe intègre effectivement les formations que les élus ont poursuivies année après année. Donc c'est tout à fait communiqué au public, au grand public, pourvu que le grand public veuille bien passer en revue le compte financier unique, ce qui, entre nous soit dit, n'est pas forcément l'appétence générale de la population. Mais je peux me tromper. Peut-être qu'une majorité des Charentonnais se formeront aux finances publiques locales pour ensuite pouvoir avoir une grille de lecture avisée de ce qu'on appelait jadis le compte administratif, c'est-à-dire le bilan financier de l'année écoulée. Donc c'est parfaitement connu et consultable. Okay ? Sur le sujet du plafond, bon, moi je vous propose ce soir, convenons-en, je propose ce soir un plafond de 2000 euros par élu. Monsieur Renaud, démarrez. Venez donc solliciter la première formation et on verra ensuite si effectivement vous aurez consommé l'enveloppe qui est proposée. S'il y a un engouement qui se confirme au cours de l'année 26 et qui pourrait nous amener à réviser l'enveloppe 27, je le ferai bien volontiers, mais pourvu que ce soit effectif. D'accord ? Donc je ne vais pas prendre, j'allais dire, des dispositions ce soir en me projetant sur 27, 28, 29 et au-delà, sans même savoir si effectivement les élus qui constituent le Conseil seront effectivement disposés à lancer des formations propres à leur rôle d'élu. Et puis enfin, la formation finance, bah oui, probablement, c'est la matière royale sur laquelle tout converge des décisions municipales. Donc voilà, puisque vous lancez à votre tour l'invitation, je vous invite à vous former aux finances publiques locales. Ainsi donc, vous serez prêt pour que nous soyons le moment venu, et en l'occurrence au compte, soit il y aurait effectivement au cours de l'année une décision modificative, voire un budget supplémentaire, je crois davantage à la décision modificative. Si elle devait avoir lieu, elle interviendrait possiblement en octobre. Je parle sous le contrôle de l'administration. Voilà. Donc formez-vous aux finances locales, ce qui, je crois, est effectivement tout à fait essentiel. Je vous rejoins là-dessus. Quant aux droits et devoirs des élus et à la respectabilité des élus, effectivement, la charte de l'élu local, je crois, balaie assez de manière exhaustive le rôle qu'un élu et la posture qu'un élu doit tenir. Peut-être y a-t-il des formations complémentaires en la matière. En tout cas, je pense que vous êtes bien averti à travers la charte de l'élu local telle qu'elle a été présentée vendredi dernier. Je ne sais pas si tu veux un point. Voilà, sur ces éléments de réponse, monsieur Renaud.
Merci. En fait, notre dernier point portait sur le fait que nous soyons toutes et tous réunis pour suivre la même formation en même temps. Voilà, c'est une formation collective, faire appel à un organisme pour qu'il puisse former l'ensemble des membres sur un plan des finances locales et pas que l'ensemble des élus puissent avoir une formation sur les finances locales.
Je ne sais répondre à votre question. Y aura-t-il une date commune aux 35 membres de ce conseil municipal pour se former aux finances publiques? Bon, je pense qu'on pourra écarter M. Segala qui, de ce point de vue-là, n'a probablement pas besoin de la formation de base. Donc il y aura un gain de crédit budgétaire à cet égard. Après, est-ce qu'on peut coordonner les agendas des 34 autres pour faire formation commune auprès d'un organisme? Écoutez, si vous y parvenez, vous aurez le droit, effectivement, à la satisfaction du maire. Bon, je ne vais pas répondre à votre question. Maintenant, si on parvient à le coordonner, pourquoi pas? Dans ce cas-là, on fait venir un formateur ici, dans l'enceinte de la mairie, et on propose à qui serait disponible. Pourquoi pas? Mais entendons-nous bien, hein, on est d'accord, il y a un socle, les finances locales de Charenton, la dette est parmi la plus faible du département. Ça, de ce point de vue-là, si vous voulez le réentendre par le formateur, je pense qu'il pourra le donner comme exemple. Attention. Voilà, je mets aux voix, donc qui vote Qui vote contre? Qui s'abstient? Alors donc l'unanimité au final. Il y a ensuite la création des commissions municipales permanentes. Alors, je vous précise, encore que vous l'ayez sur table, je voudrais donc rappeler les intitulés des commissions que j'ai légèrement modifiées. Il n'y a pas de hiérarchie particulière, mais admettons, pour la première commission, finances, administration générale, ressources et démocratie. Donc on parle là des finances, ressources humaines, affaires générales, affaires juridiques, marché public, système d'information, achat et donc démocratie participative, comme son intitulé l'indique. Le patrimoine, la seconde commission patrimoine, aménagement, écologie, avec tous les sujets relatifs à la voirie, l'espace vert, les espaces verts, bâtiments, urbanisme, hygiène, sécurité, développement économique, transition écologique, démocratie participative, c'est retiré, donc je le rature ici pour le rattacher plus haut. Et on y retrouve naturellement les sujets relatifs au commerce, à l'artisanat, au monde de l'entreprise. La troisième commission, famille et solidarité, avec vie scolaire, périscolaire, petite enfance, action sociale, santé, logement, senior. Et enfin, quatrième commission permanente, hein, je rappelle, culture, animation, sport, jeunesse, prévention, médiation, jumelage, vie associative. Est-ce que, de ce point de vue, sur les intitulés, pas de remarques, je poursuis. Dans le cadre donc de l'application de la règle de la proportionnalité, je propose donc que chacune des commissions soit constituée de 9 membres. En l'occurrence, par rapport à la règle de la proportionnalité, ce seront donc 7 sièges pour le groupe Charenton Demain que je préside. Un siège pour le groupe Charenton Verte et Solidaire et un siège pour le groupe Nous sommes Charenton. Est-ce que cela appelle des remarques de votre part? Oui, monsieur Lessani.
Monsieur le maire, mes chers collègues, les délibérations 7 et 8 relatives à la composition des commissions municipales et aux désignations dans les organes extérieurs sont importantes pour la qualité de notre vie démocratique. Nous voterons favorablement cette délibération. Je souhaite néanmoins revenir sur les échanges que nous avons eus en amont. Nous prenons acte de votre réponse concernant la composition des commissions et la répartition des membres de notre groupe. Nous serons pleinement investis dans les commissions qui nous sont attribuées, bien sûr. Pour autant, nous maintenons une conviction, celle qu'une participation plus large des élus du conseil municipal aux commissions serait bénéfique à la qualité des débats et à l'élaboration des décisions. Nous entendons les contraintes que vous nous avez rappelées, mais sur ce sujet, on pourra continuer à discuter sur ce sujet. Nous insistons également sur un point essentiel, la transparence. La composition des commissions ainsi que les désignations dans les organismes extérieurs doivent être rendues facilement accessibles en ligne par les habitants. C'est une exigence démocratique simple et légitime. Le futur règlement intérieur sera à cet égard un moment clé. Nous proposons qu'il puisse être travaillé dans un cadre transpartisan, associant l'ensemble des groupes, afin de renforcer les conditions d'un débat serein et éclairé. Nous pensons notamment à l'amélioration de l'accès aux documents en amont des conseils municipaux. Nous souhaitons également que puissent être étudiées des solutions permettant d'assurer, en cas d'empêchement ponctuel, une continuité de leur représentation au sein des commissions. Enfin, nous proposons que la question de la retransmission vidéo des conseils municipaux soit intégrée à ce travail. C'est aujourd'hui une pratique qui est largement répandue dans le Val-de-Marne, par exemple, et qui contribue à rapprocher les citoyens de la vie publique. Donc, dans cet esprit constructif, comme je vous l'ai dit, nous voterons ces délibérations. Merci.
bien. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur ce point? Donc, Sylvain Drouvier voulait apporter des éléments de réponse.
Oui, d'accord avec M. le maire. Je soulignais, M. Lissani, vous avez parfaitement raison. Nous vous rejoignons sur l'intérêt que nous portons aux commissions. Ce sont des réunions extrêmement importantes pour la vie démocratique de notre Assemblée, puisqu'effectivement, et ça rejoint aussi l'intervention de notre collègue Renaud juste avant, puisque dans le cadre de ces commissions, la parole est assez libre. Nous pouvons échanger entre nous sur tel ou tel point, beaucoup plus que nous pouvons le faire ici en conseil municipal. Le droit à la formation, c'est aussi de poser des questions, et notamment à l'administration qui est présente lors de ces commissions, l'administration qui est au service de tous les élus, opposition compris, qui se fera un plaisir de vous répondre si vous avez des points de questionnement sur tel ou tel sujet au cours de ces commissions. C'est vraiment des réunions très importantes. Mais j'ai noté que vous sollicitez que nous soyons plus nombreux à ces commissions. Mais vous savez, il vaut mieux moins d'élus qui font le job plutôt que trop qui ne sont pas là. Parce que on a à peu près le même âge, mais j'ai un chouïa plus d'expérience que vous dans le cadre de cette assemblée. Je peux vous assurer que les années passant, les commissions s'enchaînant, on est de moins en moins nombreux aux commissions, et au dernier mandat, nous nous sommes retrouvés plus d'une fois à faire des commissions uniquement avec des élus de la majorité. Donc essayons déjà d'avoir des élus qui sont présents et qui font le job au cours de ces commissions, ça serait déjà pas mal.
Bien. Monsieur Lessigny, dernier élément de réaction.
Sur la suppléance, par contre.
Vous avez raison, c'est tout à fait possible, on peut le prévoir avec le chien.
Oui, simplement, la suppléance, si elle échoit à un groupe, elle doit, dans ce cas figure, être proposée aux autres également. Alors, écoutez, ce soir, je me propose de sursoir à ce sujet de suppléance, et puis on verra dans la pratique si effectivement la situation conduirait à ce qu'on instaure un principe de suppléance pour les groupes. Donc, en attendant, on va déjà voter ce dispositif et on y reviendra ultérieurement. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, vous avez la liste, je pense, des élus composant chacune des commissions. Donc, sur le premier vote, qui est la constitution des quatre commissions permanentes, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Aucune. Sur la composition par les élus de chacune des commissions, y a-t-il des votes? On l'a fait en concertation avec les deux groupes d'opposition, hein, je le rappelle. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. C'est donc adopté. À présent, je passe à la détermination du nombre de conseillers municipaux membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Bon, je rappelle que je le présiderai et que la vice-présidence sera assurée par Muriel Minard. Donc la réglementation, bien sûr, nous invite à procéder à la désignation des membres élus qui siégeront au sein de cette instance. Il comprend le maire, les membres élus au sein du conseil municipal et des membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention ou de développement social, en l'occurrence par des représentants de diverses associations, celles qui ont siégé durant le dernier mandat, et je salue en l'occurrence la coordinatrice de ce pôle des solidarités qu'est Sylvie Goran, qui va dans quelques semaines quitter la collectivité pour faire valoir ses droits à la retraite. On vous en remercie au passage à nouveau. Et donc un certain nombre d'associations ont été sollicitées par mes soins, celles qui avaient l'occasion d'y siéger jusqu'alors, et puis d'autres associations que nous avons également sollicitées pour savoir si elles seraient effectivement intéressées à leur tour de pouvoir représenter le monde associatif, le monde social, le monde des solidarités. J'ai proposé donc d'ajouter un membre au conseil d'administration tel qu'il était lors du mandat précédent, puisque là aussi, dans la pratique, et ça n'est pas un manque de volonté de la majorité municipale d'étoffer la représentation dans les commissions et les instances rattachées au conseil municipal, mais dans la pratique, au bout de 6 ans, et probablement davantage lorsque le mandat en compte 7, il y a une forme d'essoufflement. Voilà. Et cet essoufflement, on le voit un peu chez les élus, progressivement. Mais on le voit aussi parfois au sein des associations, voilà, qui ont des prérogatives autres que de siéger au sein du CCAS, et qui, pour certains publics, sont plus âgés, et donc peut-être quelques difficultés à siéger fréquemment dans le cadre de ce conseil d'administration. Donc j'y ajoute un membre élu, ce qui conforte la représentation du conseil municipal et confortera la représentation des associations. L'application de la proportionnelle, c'est peut-être une présentation globale que je vous propose ce soir, amène effectivement à ce qu'il y ait un groupe d'opposition qui soit représenté, et en l'occurrence c'est le groupe présidé par monsieur Lessani, qui se propose par ailleurs de pouvoir siéger au sein du conseil d'administration. Et donc je fais une présentation globale et ensuite nous voterons à deux reprises. Et donc, en l'occurrence, pour le CCS, le maire est donc membre de droit puisqu'il préside cette instance. Donc, Muriel Minard, comme je viens de vous le rappeler. J'ai proposé également Chantal Léopos-Mantier, Pascal Turano, qui ont tous deux une expérience de 6 ans au sein de... et davantage, d'ailleurs, plus que ça. Et davantage au sein du CCS. Je me calais sur Pascal Coronel, mais Chantal en a davantage. Je propose la candidature de Nadia Lagzami. Je propose également la candidature de Léa Go et la candidature d'Anaïs Saget. Voilà, et donc, au titre de l'opposition, Mohamed Lessé. Alors, sur le nombre de représentants, c'est-à-dire 7, est-ce qu'il y a des observations? Non, je mets donc aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Sur la composition telle que je viens de la rappeler, je mets aux voix. Ah, pardon, c'est vrai. Ça fait partie des particularités du Code général des collectivités territoriales. Le vote doit se faire à bulletin secret pour la composition du CCS. Donc je vous ai énuméré les noms. Et donc vous avez sur table un bulletin préimprimé des noms que je viens de mentionner. Et vous avez, le cas échéant, un bulletin blanc que vous pouvez utiliser à tout usage, blanc ou autre. J'ai des élus qui ricanent à mes côtés, mais je ne sais pas de quoi on parle. Voilà, donc on va procéder au vote. On va procéder au vote. Et je vais donc demander aux deux assesseurs habituels, le Benjamin et le Dauphin du Benjamin, de pouvoir procéder aux opérations de vote. Et on va procéder par la liste d'appel, c'est bien ça? Pardon, j'avais omis ce petit sujet du vote à bulletin secret. Bien, vous avez l'urne, elle est vide, vous la montrez à l'ensemble de la représentation, qu'il n'y ait pas de difficulté à cet égard. Je vous invite à ne pas vous tromper de bulletin, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. Ainsi. Et donc, on va lancer les opérations de vote, puis ensuite de dépouillement. Alors, monsieur Jiquel, la difficulté, c'est qu'il va falloir contourner l'administration, au sens physique du terme.
À voter.
Voilà. Ensuite, monsieur Drouillet.
À voter.
Madame Le Rosmentier, elle est là, est-ce que... Oui.
À voter.
Monsieur Gaillac, il est de l'autre côté. On peut faire passer l'urne ou on n'a pas le droit d'y toucher?
Non.
Si, on peut.
Bon, on fait passer l'urne.
Allez.
Bah, viens, oui, ou pire.
Ah, bah oui.
Ça va être plus facile.
Enfin, ouais, faut être au moins deux.
À voter.
Monsieur Gaillac, à voter. Madame Herbert.
Ah, c'est ici.
Ah, ça serait trop facile si c'était.
À voter.
Monsieur Turano, c'est toujours là-bas. Madame Minard, elle est tout à fait de l'autre côté. On veut toujours mettre un peu plus de complexité. Monsieur Ségala, c'est de l'autre côté. Madame Girard, c'est au fond à votre gauche. Monsieur Bocara. J'en étais donc à Madame Longuet, je crois. Monsieur Bocara, c'est fait. Monsieur Benoît, c'est de l'autre côté. Madame Menou. Monsieur Le Guil. Monsieur Scagliozzo. Madame Guiffard. Monsieur Galotte. Madame Jancy, c'est de l'autre côté. Monsieur Gabizon, fort heureusement à ses côtés. Monsieur Traversy, de l'autre côté. Madame Lagzami est sur la même rangée. Madame Porte, de l'autre côté. Monsieur Rosier. Madame Agel. Madame Beau de l'autre côté. Madame Denis. Madame Samandel. Monsieur Benaroche. Monsieur Baron qui va devoir voter à son tour. Et ensuite c'est plus facile, c'est en rang. Monsieur Lessani, Madame Marceau, Madame Leclerc, Monsieur Renaud, Madame Saroyan, Monsieur Sherman. Voilà, je vous invite à recompter, puis si le nombre de bulletins est bien égal à 35, procéder au dépouillement. C'est la liste commune. Hein. Sinon, on risque de froisser un groupe d'opposition. Ils ne sont pas encore rattachés à nous, donc. Thank you.
Monsieur Cogugin.
On peut considérer qu'il y a donc 35 bulletins identiques. Bien.
Bien. Bon, je crois que c'est bien. Je pense que chacun convient qu'il y ait bien 35 bulletins identiques.
Bien, voilà donc l'élection des conseillers municipaux au Centre communal d'action sociale ainsi entérinée. Je vous en remercie. Le point suivant. Procède l'élection, la désignation plus exactement des membres de la commission d'appel d'offres. Alors, en l'occurrence, en vertu de l'article L1414-2 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que la commission d'appel d'offres est constituée et présidée de droit par le maire ou son représentant et comprend 5 membres titulaires ainsi que 5 membres suppléants élus émanant du conseil municipal. Et donc en concertation aussi avec le groupe présidé par Mohamed Lessani, vous avez donc la liste des élus qui sont proposés en tant que titulaires, en tant que suppléants. Donc, si vous en êtes d'accord, nous pourrions procéder à un vote à main levée, sauf si quelqu'un s'y oppose. C'est la règle de la proportionnalité qui s'applique ici. Hein. Donc je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Unanimité. Le point suivant porte sur la commission de concession, qui se penche donc sur l'ensemble des concessions décidées par la ville, à la fois leur passation et leur suivi. Naturellement, c'est le cas dans le domaine, dans trois domaines, celui du stationnement, celui de la petite enfance pour un certain nombre d'établissements ou de places réservées au sein d'établissements et par ailleurs du marché aux comestibles, du marché alimentaire. Donc s'agissant de la commission de concession, vous avez là aussi la liste des titulaires qui sont proposés et la liste des suppléants en vertu de la règle proportionnelle. Est-ce que cela appelle des remarques ou des observations ? Non. Je mets donc au... On peut procéder ainsi au vote en direct. Je mets donc aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Unanimité. Le point suivant porte sur la composition et désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux. Qui porte là en l'occurrence sur le lien ou la relation entre la collectivité de Charenton et les délégataires et les syndicats intercommunaux dont nous dépendons. Je pense en particulier au syndicat du Cyperec, ainsi qu'au CIGEF, syndicat de gaz et électricité, par ailleurs. Et donc au titre de la CCSPL, il y a là possibilité, donc, cette CSPL, qui est présidée de droit par le maire, et en l'occurrence, nous avons donc là possibilité d'intégrer le groupe Nous sommes Charenton dans le cadre donc de cette CCSPL. Vous avez donc la liste des candidats à cette commission. Donc des groupes d'opposition, Mohamed Lessani d'une part et Madame Sabine Saroyan d'autre part. Est-ce qu'on peut procéder au vote en direct ? Oui. Alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Le point suivant, relatif à la commission Ville Handicap, dont je salue les travaux qu'elle porte tout au long des années. Vous pourrez vous procurer le dernier rapport pour en prendre toute la mesure. Cette commission est donc l'interlocutrice privilégiée pour le suivi des agendas d'accessibilité programmés sous l'acronyme ADAP. Elle est destinataire des projets d'agenda, des documents de suivi et des attestations d'achèvement des travaux qui sont réalisés pour l'ensemble des établissements ou dans l'espace public. J'en suis président de droit. Sa composition est mixte puisqu'elle associe à la fois les représentants du conseil municipal, également des associations d'usagers et des associations de public en situation d'handicap. Donc, à ce titre-là, il s'agit de pouvoir la constituer, la créer, puisque nous débutons un mandat. Est-ce que cela appelle de votre part une observation et, sachant que, alors, ça appelle donc une observation. Je finis mon propos, je la constituerai par arrêté. Alors, Monsieur Renaud.
Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. L'accessibilité et l'inclusion sont des enjeux fondamentaux à l'échelle nationale et locale. La proportion d'individus porteurs de handicap augmente dans le temps et avec l'âge. des troubles physiques aux difficultés de se mouvoir dans la ville, à être en société, du plus jeune âge à l'aube de la vie, ce sont des millions de Françaises et de Français et des milliers de Charentonaises et de Charentonais qui sont touchés directement ou indirectement. Notre programme portait une attention particulière à toutes les formes de handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles, et s'inscrivait dans une volonté de renforcer concrètement l'accessibilité et l'inclusion des personnes concernées. Par ailleurs, nous avons été interrogés sur les modalités d'accès aux réunions de ce conseil municipal pour les personnes porteuses de handicap hors moteur, et souhaiterions pouvoir vous suggérer des dispositions spécifiques dans la réforme du règlement du conseil municipal. Nous voterons en faveur de cette délibération et serions honorés de prendre part aux travaux de cette commission lorsque vous en arrêterez la composition. Je vous remercie.
Très bien, écoutez, je prends note de cela et donc concertons-nous, c'est-à-dire revenez vers moi, c'est mieux ainsi, saisissez-moi par mail de votre volonté de pouvoir y siéger. Je me tourne également vers l'autre groupe d'opposition, si vous souhaitez à votre tour y siéger, faites-moi des propositions et on disposera à la suite dans le cadre de cette composition avec une de nos élus de la majorité qui assurera à mes côtés sa vice-présidence. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur ce point le moment venu. Voilà, donc sur le principe de la création, on ne parle pas de la composition ce soir, mais sur le principe de la création, pas d'autres remarques, j'ai noté vos observations, vos souhaits. Je mets donc aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Unanimité. Le point suivant, c'est porte sur la désignation des représentants de la commune au sein du conseil territorial de l'EPT Paris-Est Marne et Bois. Donc là aussi, j'ai proposé sur table la liste des représentants. Le fait est que cette représentation, puisque le conseil territorial est constitué de 90 élus, en l'occurrence, je suis membre de droit, puisque je suis par ailleurs le représentant à la métropole, et au titre de la proportionnalité et du nombre de postes qui est proposé par, qui sont proposés par l'EPT, les groupes d'opposition n'auront pas l'occasion d'y siéger, mais néanmoins, je ne doute pas que vous aurez des correspondants. Et donc, vous serez parfaitement informé des travaux. Ça, c'est un commentaire que je m'autorise. Mais par ailleurs, il y a un rapport annuel qui est présenté au conseil municipal ici même sur les travaux qui seront conduits et qui seront particulièrement portés par les élus qui représenteront le conseil municipal de Charenton. Dans ce cas de figure, les élus qui représenteront le conseil municipal de Charenton ne représentent pas seulement l'exécutif, mais représentent l'entièreté du conseil municipal. Donc on vous rendra compte des travaux qui seront réalisés. Donc en l'occurrence, j'ai proposé les candidatures de Sylvain Drouillet, de Mylène Guiffard, de Benoît Gaillac et de Madame Delphine Herbert. Est-ce que cela appelle... Oui, Madame Leclerc.
Monsieur le maire, chers collègues, je vais parler alors pour les points 15 à 30. Donc le point 15 concerne l'établissement public territorial Paris-Est, Marne et Bois. Les décisions de cette instance, notamment en termes d'urbanisme, sont importantes pour notre ville et notre groupe considère que la diversité des points de vue devrait pouvoir être rendue visible tout en respectant le fait majoritaire. Au regard du nombre de représentants de notre commune, nous regrettons qu'aucun membre de l'opposition ne soit invité à y exprimer sa voix. Nous aurions naturellement fait acte de candidature si cela avait été envisagé. Les points 16 à 30 sont des désignations de représentants au sein de conseils, de commissions et de syndicats pour lesquels, là encore, les conseillers d'opposition ne sont pas invités à participer. Cependant, dans un souci de transparence, nous souhaitons que les dossiers traités au sein de ces instances puissent être accessibles à l'ensemble des élus du conseil au-delà de la présentation annuelle des décisions prises. Je vous remercie.
Bon. Vous l'avez rappelé dans votre propos, le fait majoritaire, il est celui-ci. Le nombre de postes qui sont proposés par le territoire est préalablement fixé, la règle de la proportionnelle s'applique, donc ce sont des élus de la majorité qui siégeront. À votre demande, pour être informé et à ce que vous soit communiqué les travaux, les décisions, j'allais dire les ordres du jour qui sont présentés dans un certain nombre d'instances où les élus de la majorité représenteront le conseil municipal. Écoutez, je n'y vois évidemment qu'un avantage, c'est qu'on puisse partager davantage sur les missions et les activités de ces mêmes organismes ou syndicats, en l'occurrence, puisque nous allons délibérer sur chacun d'entre eux dans un instant, s'agissant des membres du conseil municipal de la majorité qui vont représenter notre conseil. Il y a, me semble-t-il, je me tourne vers les adjoints ou adjointes qui vont présider les commissions, s'il y a un lieu où on doit pouvoir particulièrement l'exposer, d'abord l'exposer, peut-être en débattre, c'est plutôt les commissions plutôt que le conseil municipal. On ne fera pas des points divers sur l'activité des syndicats dans lesquels on est représenté. Sans quoi nous aurions des séances particulièrement rallongées, mais peut-être ponctuellement, il y a une forme de points divers sur l'actualité des syndicats dans les commissions, en l'occurrence la PAE, et puis au sein de l'instance du conseil municipal aussi, dans le cadre du rapport annuel, mais vous l'avez rappelé, Madame Leclerc. Alors, si vous voulez davantage, je vous invite à vous tourner vers les présidents de commission et vers les élus qui siégeront au sein de ces syndicats pour vous rendre, en quelque sorte, un rapport, qu'est-ce qu'on peut dire, d'étape, mais alors la fréquence qui restera à définir avec ceux qui représenteront, si c'est trimestriel ou semestriel. À mon sens, je pense que semestriel conviendrait déjà parfaitement. Voilà, donc à celles et ceux qui vont y siéger, possiblement moi aussi, je serai donc votre interlocuteur le moment venu. Voilà, donc au-delà de ce rappel, est-ce qu'il y a d'autres observations ? Non, je mets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, donc. Merci, et j'ai pris note de votre position pour les dossiers qui vont du point 15 au point 30. Voilà, le point 16, c'est la CLECTE. Alors la CLECTE, comme ne l'indique pas son acronyme, c'est la commission d'évaluation des charges transférées, un savant sujet financier qui est propre au territoire, avec les silos par ville et puis des dépenses qui sont mutualisées quant à elles, et naturellement des recettes budgétaires pour pouvoir assumer l'ensemble des dépenses du territoire. On aura l'occasion d'y revenir, et donc sur ce point particulier, je propose au titre du groupe majoritaire, en tant que titulaire, Patrick Seguela, et suppléant, votre serviteur. Est-ce que cela appelle des remarques ? Non ? Je considère que votre propos liminaire était une position commune pour l'ensemble des points. Donc je mets aux voix, là aussi je dois mettre aux voix, n'est-ce pas ? Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Il y a, je crois, une CLECTE également pour la métropole du Grand Paris. En l'occurrence, je propose d'en être, puisque j'en suis membre, et puis le cas échéant d'être suppléé par M. Seguela. Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Le point suivant, la désignation des représentants de la commune au sein du CIPEREC. Et donc je propose d'en être le titulaire et M. Fabien Benoît d'en être le suppléant. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité. Merci. Le point du CIGEF. Je propose également d'en être le titulaire et M. Frédéric Rosier d'en être le suppléant. Ça s'appelle des, pas de remarques. Donc, qui vote contre, qui s'abstient ? Unanimité. Si le CIFUREP, en l'occurrence donc le syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne dont nous dépendons, je propose la candidature, c'est bien normal puisqu'il en est désormais le délégué, de Laurent Le Guil et en suppléant Madame Chantal Le Haut-Passementier. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Non. Concernant le syndicat du cimetière de la Fontaine Saint-Martin, dont nous dépendons aussi, qui est situé à Valenton, et qui fait l'objet d'un rapport annuel, là aussi, dans le cadre de la commission communale des services publics locaux, je propose, en tant que titulaire, Chantal Le Haut-Passementier et le maire en tant que suppléant. Est-ce que ça appelle des remarques ? Non. Je vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Le point suivant, oui, le cimetière de Valenton, il y a donc des Charentonnais qui s'y font inhumer ou incinérer. Voilà, je vous l'apprends probablement pour un certain nombre d'entre vous. Ce qui est une, si j'ose dire, une facilité également, puisque nos cimetières de la porte de Charenton, ainsi que le cimetière ancien, disposent au final d'assez peu de place.
Et les crémations
se font là-bas, majoritairement. Au titre de la représentation de la commune au sein du syndicat mixte ouvert AGMOB, Agence des mobilités ex-syndicat Autolib Vélib, je propose la candidature en tant que titulaire de Sylvain Drouvillier et suppléant Aurélia Girard. Est-ce que cela appelle des remarques ? Non. Vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Les représentants de la commune au sein de l'ALEC MVE, dans le cadre des démarches de maîtrise de l'énergie, l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'Est parisien, je propose en tant que titulaire la candidature de Frédéric Rosier et en suppléant Aurélia Girard. Qui vote contre ? À l'abstention. Merci. Représentant de la commune au sein des conseils d'école. Alors, mon représentant de droit légitime sera Sylvain Drouvillier, mais nous pouvons effectivement lui adjoindre un élu ou une élue, et en l'occurrence, je propose que le représentant de la commune, au titre de la commune, soit Nicole Menou, qui secondera donc Sylvain Drouvillier dans le cadre des conseils d'école. Comme vous le savez, il y a parfois quelques chevauchements sur les mêmes périodes de conseils d'école qui se tiennent le même jour, souvent aux mêmes horaires, et par conséquent, je souhaite que Sylvain soit accompagné, secondé. Je propose la candidature de Nicole Menou. Est-ce que ça appelle des remarques ? Non, je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci à Nicole Menou. Délégation du représentant de la commune au sein du conseil d'administration de l'OGEC, en l'occurrence du groupe scolaire Notre-Dame des Missions, propose la candidature de Sylvain Drouvillier. Est-ce que ça appelle des remarques ? Non. Mais on voit. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Les représentants de la commune au sein des conseils d'administration du collège Lassizé et du lycée Robert Schumann. Alors, je propose pour le collège Lassizé la candidature en tant que titulaire de Lorenzo Scaglioso et en tant que suppléant de Sylvain Drouvillier, d'une part. Deuxième aspect, pour la représentation au lycée Schumann, la candidature en tant que titulaire de Sylvain Drouillet et la suppléance assurée par Lorenzo Scagliozzo. Est-ce que ça appelle des remarques ? Y a-t-il deux votes en l'occurrence ou est-ce que c'est un vote global ? Un vote global, ok. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Je passe au point suivant qui est du domaine de l'urbanisme plus qu'autre chose. Le représentant de la ville au sein de l'Assemblée Générale de l'établissement public foncier Île-de-France, partenaire avec lequel nous sommes en lien dès lors que nous portons des opérations de préemption pour conduire des projets de construction, notamment de logement social. Et donc je propose la candidature de Benoît Gaillac. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Non. Alors, c'est chose faite pour ce point. Pour ce qui est de l'Assemblée Générale d'Île-de-France Construction Durable, qui est une émanation de la région, donc de ce fait sur les politiques de construction des lycées, parce que c'est la compétence de la région, propose la candidature de Sylvain Drouillet. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Non. Dossier suivant, le représentant de la commune au sein de la société Valofis Chaumière Île-de-France. Nous avons donc cette possibilité de représenter la ville de Charenton au sein de cette société, une filiale du groupe Valofis Habitat. Donc vous savez qu'il est le bailleur social du département du Val-de-Marne. Et je propose la candidature de Muriel Minard. Y a-t-il des votes contre ? L'abstention ? Non. Alors, unanimité. Et par ailleurs, la délégation du correspondant Défense, je propose au titre des actions commémoratives du devoir de mémoire la candidature de Jean-Marc Bocara. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Non. Alors, unanimité sur ce point. Nous arrivons à la clôture de cet ordre du jour, mais je crois que M. Lessani m'avait sollicité pour une prise de parole. N'est-ce pas ? C'est moi qui vous le rappelle. Alors, allez-y, je vous en prie.
Merci de me donner la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, au nom du public, je souhaite au nom du groupe Charenton Vert et Solidaire, groupe de la gauche unie et des écologistes, un peu la gauche plurielle, rendre un hommage sincère à Lionel Jospin. Lionel Jospin, c'est une certaine idée de la politique, une politique faite de conviction, de sérieux, de respect des institutions, mais surtout profondément tournée vers l'intérêt général. Son action à la tête du gouvernement a marqué durablement notre pays. Les 35 heures, la couverture maladie universelle, les emplois jeunes, la police de proximité, le PACS. Autant de réformes qui ont changé concrètement la vie de millions de Français. Mais au-delà des décisions, il y a aussi la manière d'être. Une exigence, une intégrité, une sobriété dans l'exercice du pouvoir qui force le respect. Dans une époque où le débat public est parfois abîmé, où la défiance grandit, se souvenir de ce que fut cet engagement est précieux. Cet héritage nous oblige. Il nous rappelle pourquoi nous faisons de la politique. Pas pour nous-mêmes, mais pour être utile, pour agir et améliorer la vie de nos concitoyens. Au nom de notre groupe, je tenais à saluer cette trajectoire et dire combien elle continue d'aspirer nos engagements aujourd'hui. Je vous remercie.
Merci. Eh bien, je vous remercie de votre attention et de votre participation. Et je clôt cette séance. Merci. Bonne soirée.